Le but des chercheurs collectivement organisés, c'est d'expliquer le monde réel de manière rationnelle et de manière collective. J'insiste sur collective, on verra comment tout à l'heure. Les scientifiques modernes, je ne parle pas du XVIIIe siècle ou des siècles antérieurs. Il y a eu des siècles où on était à la fois scientifique, philosophe et théologien. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La communauté scientifique d'aujourd'hui, sur son contrat de travail, je suis payé avec vos impôts, pas pour être un philosophe, ni pour être un théologien, je suis payé avec vos impôts pour être un chercheur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ma légitimité s'arrête à l'explication rationnelle du monde réel. Je n'ai pas légitimité et je n'ai pas de cahier des charges à aller mettre un pied en métaphysique. Je m'enracine en métaphysique, Véronique l'a bien dit, il y a des présupposés métaphysiques qui sont utiles à la science, mais nous ne sommes pas collectivement prescripteurs en métaphysique. Comme disait Léo Ferré, arrangez-vous avec ça. Ce n'est pas pour embêter les religions que le chimpanzé, le groupe frère de l'homme dans la phylogénie du monde vivant. Il y a des questions de fait qui sont corroborées collectivement, selon certaines règles du jeu, qui garantissent d'ailleurs, si elles sont respectées, l'autonomie de la collectivité des scientifiques. Et c'est de cette autonomie-là dont les religions dont on parle ne veulent pas, évidemment. Alors, la version la plus sophistiquée du spiritualisme englobant, ça va consister à faire croire au public que collectivement, notre métier peut se charger d'autre chose que d'expliquer rationnellement le monde réel. J'en veux pour preuve l'encart publié dans le journal Le Monde le 23 février 2006, intitulé « Pour une science sans a priori ». C'est-à-dire que les gens qui expliqueraient le monde rationnel, rationnellement le monde réel, et qui s'en feraient leur seul objectif professionnel, seraient en quelque sorte des gens obtus avec des a priori. L'encart nous invite à nous ouvrir et à ce que la collectivité scientifique participe à une quête de sens. Et ça, c'est un propos qui est tenu par une organisation française qui s'appelle Université Interdisciplinaire de Paris, mais ils sont financés lourdement parce qu'ils sont convergents avec la John Templeton Foundation, ils sont financés par la Templeton. La Templeton, elle, est encore plus maligne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle finance les laboratoires. En 87, j'ai la plaquette, la Templeton travaille pour le progrès de la religion dans les sciences. Et la Templeton, aujourd'hui, allez voir leur site web, ils sont inodores, incolores, insipides. Vous avez l'impression de voir un mécène normal, mais en fait, si vous connaissez l'histoire, la Templeton, elle revient de loin, c'est un riche mécène américain, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et qui se propose justement d'organiser un warming trend, une tendance au réchauffement entre science et religion, et de faire participer la collectivité scientifique à des questions de religion et des questions qui sont dites de quête métaphysique, en quelque sorte. Alors, on peut s'inscrire, je veux bien me faire comprendre, à titre individuel. Évidemment, on n'interdirait à personne, à titre individuel, de participer à une quête de sens. Mais le problème de ces organisations, c'est qu'elles mobilisent la collectivité professionnelle. C'est un métier qu'elle est en train de dévoyer. Ce n'est pas des individus. Bien sûr qu'en tant qu'individu, on peut participer à n'importe quelle réflexion philosophique de son choix. Et sans que ce soit... Il n'y a pas de péjoration chez moi là, en disant philosophique. Mais il s'agit de savoir, là, vraiment... Pourquoi vous considérez que vous devez payer des impôts pour me payer moi, pour faire mon métier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc mon métier, encore une fois je l'affirme, n'a pas d'agenda collectivement assumé sur le plan philosophique ou métaphysique. Donc nous nous arrêtons, notre légitimité s'arrête à l'explication rationnelle du monde physique. Voilà donc quatre stratégies différentes. La première, je résume, le négationnisme. La deuxième, le mimétisme. On va faire comme si on était des scientifiques pour prouver la vérité du contexte littéral du texte sacré. Troisième stratégie, un créationnisme normatif. On va redéfinir les sciences de l'extérieur. Et la dernière stratégie, le spiritualisme englobant, on va modifier l'objectif professionnel des scientifiques pour faire croire au public qu'ils sont faits pour animer une quête spirituelle. Jacques Arnoux nous rappelle dans Le Monde des Religions, en 2003, si ma mémoire est bonne, la métaphore de l'Europe. Ah non, il ne faut pas mélanger science et religion. Non, non, ne mélangeons pas tout. Les sciences et les religions sont comme deux pays. Il y a une frontière bien délimitée. Il n'y a pas de territoire superposé. Les sciences et les religions sont comme deux pays, comme la France et l'Allemagne. Ensemble, elles construisent l'Europe. Alors, ça voudrait dire que la science contribuerait à la construction de quelque chose de plus grand que son propre objectif. Si ceci peut très bien être un objectif de théologien, et ça je le comprends, en aucun cas cet objectif n'intéresse la collectivité professionnelle de mon métier. Les individus peut-être individuellement, mais le collectif, non. Alors, la règle du jeu, on va en terminer là. J'ai parlé de règle du jeu, alors allons-y. C'est... Véronique a commencé à en parler d'ailleurs. À quel jeu on joue internationalement entre scientifiques? Eh bien, il y a des attentes. Je vais vous faire quatre propositions. S'il y a une entorse à l'une des quatre, votre papier n'est pas accepté. Hein. Vous êtes récusé immédiatement par vos collatéraux, vos pairs en quelque sorte. La première des attitudes scientifiques attendues dans un laboratoire, c'est qu'on soit sceptique sur les faits. Alors excusez-moi de vous dire des évidences, mais franchement ça va mieux en le disant. Les scientifiques ne peuvent pas faire leur métier s'ils ne sont pas sceptiques sur ce que leurs deux prédécesseurs ont énoncé sur les faits, et s'ils ne sont pas sceptiques sur les faits qu'ils découvrent eux-mêmes. Ce n'est pas un scepticisme éperdu, ce n'est pas un scepticisme des méthodes, au contraire, la règle du jeu, on sait laquelle elle est. Mais il faut être sceptique sur les énoncés des autres. Et il faut être sceptique sur les savoirs. Les savoirs se justifient par le fait qu'un savoir prend la peine de se justifier lui-même. Et comme il se justifie lui-même, un savoir est amené à se laisser déstabiliser. Un savoir est ouvert à la déstabilisation, contrairement à la croyance qui, souvent, tire sa légitimité d'une impossibilité même de la remettre en cause. Les savoirs, c'est tout l'inverse. Le savoir, justement, est savoir parce qu'on sait pourquoi on sait, et on sait qu'à tout moment, on peut aller vérifier corroborer ou réfuter ce que l'on sait. Cette première propriété attendue dans un laboratoire, elle n'est pas respectée par le créationnisme au sens 2, c'est-à-dire celui de Maurice Haggish. Je vous rappelle que leur programme, c'est de prouver scientifiquement la vérité du contenu littéral de la Genèse. Bah, ce qui est à démontrer est déjà écrit. Il n'y a pas de scepticisme possible. Ils font des manips pour prouver une insertion qui est déjà inscrite dans le marbre. Il n'y a pas d'ouverture, si vous voulez. Donc, ils sont pas sceptiques sur les faits, ils ne peuvent pas se prétendre scientifiques. Deuxième propriété, le réalisme de principe. Le monde là-dehors existe indépendamment des idées que je m'en fais et des descriptions que j'en fais. Je vous rappelle que les scientifiques valident collectivement les énoncés. Un énoncé qui traîne tout seul dans un coin de papier, sur un bout de papier de laboratoire, il est amené, cet énoncé, à disparaître. L'énoncé ne perdure à travers la collectivité que si il est corroboré par des observateurs indépendants. Déjà, il faut se soumettre à un premier niveau de filtre collectif qui est la publication des journaux spécialisés. Nous sommes éprouvés par les évaluateurs des journaux. Deuxième filtre, quand bien même vous arrivez à publier votre truc, si c'est pas reproduit par au moins un labo indépendant, ça tombe aux oubliettes. Je vous rappelle que Benveniste a publié La mémoire de l'eau dans Nature, et que comme jamais personne n'a refait les manips de Benveniste, La mémoire de l'eau n'en parle plus. C'est tombé aux oubliettes. Une connaissance scientifique est forcément une connaissance à portée universelle, puisqu'elle a été corroborer pour se maintenir en quelque sorte, elle a passé le filtre de multiples remises en cause et de corroboration d'équipes indépendantes. Alors, s'il y a eu réfutation, on n'en parle plus non plus, bien sûr. C'est corroboration, réfutation. On va jouer un jeu à double, avec deux issues possibles. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la reproductibilité des expériences est le point nodal de cette validation, en quelque sorte, croisée. Moi, la meilleure récompense d'un scientifique, c'est lorsqu'en fait, un de ses résultats, un de ses énoncés, a été produit par quelqu'un à qui il n'a jamais parlé. Moi, pour ma part, ça s'est produit avec des Japonais, ça s'est produit avec des Sud-Africains, et ça s'est produit avec des Américains du Nord. Eh bien, c'est une belle récompense que de voir un résultat qu'on a publié, confirmé sur d'autres données par une autre équipe à qui on n'a jamais parlé. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. C'est montrer que ce qu'on a produit peut être enfin dans le champ de l'universel. Eh bien, je reviens à ma deuxième propriété. Je suis forcé, pour espérer que quiconque autre puisse reproduire mon expérience, je suis forcé de supposer que le monde réel là-dehors existe indépendamment de moi. J'espère que ce monde qui est là-dehors existe indépendamment de moi et se manifestera à lui comme il s'est manifesté à moi. Quelle espérance avoir dans la reproductibilité des expériences si je ne fais pas le pari que ce qui est là-dehors a une existence indépendante de moi et des énoncés que j'en produis? Je vous rappelle que ça a l'air évident, hein, excusez-moi de vous dire des évidences, mais il y a tout un pan de philosophie francophone qui va contre. Le relativisme cognitif va contre ce que je viens de vous dire. Lorsque Bruno Latour nous dit dans la recherche en mars 1998 que Ramsès II n'a pas pu mourir de la tuberculose parce que le bacille de Koch n'était pas connu des Égyptiens, c'est que Bruno Latour subordonne la conceptualisation, subordonne l'existence d'un objet matériel à la conceptualisation que ses contemporains en ont. Évidemment, celui qui dit que Ramsès II est mort de la tuberculose, c'est pas un Égyptien de l'époque de Ramsès II, c'est un médecin du Val-de-Grâce de 1998. Là est l'erreur de Bruno Latour, c'est une assertion rétrospective. Troisième propriété, le matérialisme méthodologique qu'on a cité tout à l'heure. Les scientifiques sont relativement humbles. Ils disent, ce que je sais manipuler à la paillasse, ça relève d'une catégorie qu'on appelle la matière, ou de propriétés très intégrées de la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les scientifiques ne savent manipuler que ce qui est changeant. Ce sur quoi, lorsque j'appuie dessus, ça réagit. Et c'est ça qui conditionne l'expérience. Ça la conditionne méthodologiquement. Le scientifique ne dit pas tout est matière, il n'en sait rien. Il n'a pas les moyens, sauf alors après à sortir des sciences et à aller sur le terrain de la philosophie, à titre individuel s'il veut le faire, mais en tout cas, en tant que scientifique, il n'a pas les moyens d'aller au-delà d'un seul matérialisme méthodologique. Ma condition de travail, c'est la matière. C'est ça que ça veut dire. Hein. Je postule pas sur ce qui existe ou pas. Ma condition de travail, c'est manipuler la matière. Et pour terminer, Véronique en a bien parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre de propriétés de la rationalité humaine qui sont requises en science. On est rationnel beaucoup plus largement qu'en science, bien sûr. En tant qu'individu de la vie tous les jours, nous pouvons être rationnels. Mais la rationalité est absolument requise dans le champ des sciences. Que vous donnez comme exemple, mais vraiment trivial, je racontais ça à Véronique l'autre jour. Il y a 20 ans, j'ai fait un tour dans un laboratoire où un étudiant... Typiquement, une attitude qui n'est vraiment pas attendue dans un laboratoire. Un étudiant avait mis sur sa paillasse un brin de muguet, parce que c'était le mois de mai. On lui avait offert un brin de muguet. Et puis, au bout de 8 jours, le brin de muguet, il était fané. Il était tout pourri. Et puis, un matin, la femme de ménage voit ce brin de muguet tout pourri. Elle prend le brin de muguet, elle le fout à la poubelle. Ce jour-là, l'étudiant en question rate ses manips. Eh bien, il fait tout un pataquès dans le labo. Il accuse la femme de ménage d'être responsable de ses échecs expérimentaux parce que le muguet lui portait bonheur. Et ça, c'est. Vous rigolez, je suis content, je ne suis pas le seul à dire des évidences sur ce qui est attendu dans un laboratoire. On n'est pas censé mobiliser de la superstition dans un laboratoire. La rationalité, respect des règles de la logique et respect du principe de parcimonie dont a déjà parlé Véronique. Je ne rentre pas dans le détail. Et je conclue donc. Voilà, je conclue les quatre propriétés qui vous montrent que les créationnismes que j'ai cités ne sont pas scientifiques. L'intelligent design mobilise une providence omnisciente et omnipotente au laboratoire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment que chacun est libre de mobiliser la providence, mais ça ne fait pas partie du contrat méthodologique d'aujourd'hui. Donc, l'intelligent design, ils appellent ça ce qu'ils veulent, mais ils n'appellent pas ça de la science. Et moi, si je me bats, c'est que je me bats sur des étiquettes. Parce que vous verrez qu'à l'école, c'est sur une question d'étiquette. Qu'est-ce qu'on enseigne comme science à l'école publique, en France, en Suisse, aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Nord, bref, en Turquie. Là, on est vraiment sur des questions de label. Donc il faut bien labelliser, il faut avoir le courage de labelliser quelque part pour nos élèves, pour nos concitoyens. Je ne cherche pas à ériger des normes absolues, mais il faut bien proposer à un moment donné à nos politiques un label qui explique que Monsieur Maurice Aiguiche, c'est pas de la science, bien qu'ils disent que ça en soit, ça n'est pas. Je suis bien placé pour le savoir, je suis payé par vos impôts pour faire de la science. Puis il n'y a pas que moi, quand je dis moi, il y a ma profession derrière. Et puis il y a l'intelligent design, donc qui mobilise la providence et qui n'est pas censé être mobilisé. Et puis il y a la Jane Templeton Foundation et l'UIP qui voudraient, là c'est encore plus subtil, je résume, nous mobiliser dans une quête de sens qui ne relève pas de ma profession. Donc je répète, à titre individuel, les gens peuvent la produire, bien sûr, mais à titre professionnel, à titre de label, nous ne sommes pas labellisés pour produire cette quête et remplacer en quelque sorte les philosophes. Nous ne sommes pas non plus des prescripteurs en termes moral et politique, mais ça, c'est presque une évidence. Donc je conclue en disant que la science est laïque à l'international. C'est ça qui me fascine dans ce métier, c'est que quand un Japonais publie un résultat, pour avoir la validité de son résultat, je n'ai pas besoin de savoir en quoi croit ce Japonais ou cet Américain ou ce Sud-Africain. Il n'est pas mention dans nos articles, il n'est pas fait mention de nos appartenances métaphysiques, religieuses ou politiques. C'est hors champ. Les sciences sont laïques de fait. Ce n'est pas écrit dans le marbre, il n'y a pas un texte de loi, mais c'est ce qui se produit de fait. Et ce qu'elles produisent donc... Ce qu'elles produisent a une portée potentiellement universelle, puisqu'il est rendu à la raison de tous les hommes la possibilité de tester en droit les assertions qui sont produites. Que doivent faire les scientifiques face au créationnisme? Ça sera le dernier point. Je suis d'avis de ne pas dialoguer sur une estrade avec des créationnistes devant un public, ça serait la dernière chose à faire. Puisque le travail des créationnistes, lorsque vous les avez bien analysés dans tous les pays où ils s'expriment, c'est d'abord un travail de communication. Si vous dialoguez avec un créationniste sur l'estrade, face au public, vous faites croire au public que la personne que vous avez en face de vous joue le même jeu que celui auquel vous jouez vous. Or, vous, vous jouez le jeu de l'argumentation rationnelle. Lui, il joue un autre jeu qui est, un jeu de cache-cache, en fait, méthodologico-politico-méthodologique. Hein. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faille pas dialoguer. Il faut écrire. Alors, il faut écrire contre eux pour aider nos concitoyens à identifier les tours de passe-passe qui sont faits. Mais il faut mobiliser autour de nous les philosophes, les théologiens et les élus politiques pour que les créationnistes ne soient pas sans possibilité de dialogue dans la société où ils sont. Mais au moins, le philosophe, le théologien et l'élu politique sont les types de personnes qui peuvent dialoguer sans prendre le risque de leur servir le jeu de miroir qu'ils cherchent à obtenir. Je vous rappelle, ils essaient d'obtenir dans le vernis de la science sur leur cheval de Troie pour rentrer à l'école publique. C'est donc un problème politique. Et notre rôle à nous, scientifiques, c'est d'écrire des bouquins comme ça, ou d'autres d'ailleurs, pour aider les politiques à identifier les véritables enjeux. Merci.